Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 454, il faut que je l'aille juste. Nous sommes le 6 mai 2024 et nous sommes trois, moi c'est Ben, je suis avec Mike, a.k.a. Side, et tout le monde a une couleur aujourd'hui. Alors moi je suis un peu orange comme ça, Mike est dans le bleu. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Mike? Est-ce qu'il faut lire quelque chose?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, le bleu, ça veut dire quoi? Le bleu, ça veut dire que c'est ma couleur favorite. Si vous voulez, le bleu, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'océan, c'est toutes ces choses-là. Et, mais c'est vrai que ça, même si j'ai pas eu tendance, je peux être de couleur assez rouge dans mon tempérament, mais pas violent, hein, mais disons plein d'énergie, je dirais que le bleu m'apaise. Donc voilà, et j'ai regardé les différents backgrounds sur les petites vidéos, vous pouvez aller nous voir hein, sur Twitter, LinkedIn et tout ça, et je trouve que le bleu me va bien. Allez, voilà.
Ouais, et ben, je suis tout à fait d'accord. Et puis, Baptiste est aussi là, plutôt dans le gris, hein, bar house, un petit peu comme ça, post-moderne, mais avec cette touche humaine que la jeune génération s'est amenée. Comment vas-tu, Baptiste?
Salut Ben, salut Mike, ça va bien. J'aime beaucoup la description, c'est presque un peu de chat GPT, tu sais, trop très verbeux alors qu'il n'y a pas vraiment besoin.
Non, c'est juste. Alors qu'il y a rien, c'est exactement ça.
Ouais, c'est ça. Mais il y a c'est vrai que le plafond en béton, ça fait toujours un peu bizarre. J'ai quelqu'un qui est venu chez moi et qui a dit ah mais il est pas fini ton appart en fait. Parce qu'il y a encore du.
Mais non, je vis à Zurich, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus.
Exact. Ça, tu vois, pour 5000 francs, ils finissent pas le plafond. Après, si tu veux qu'ils finissent le plafond, c'est des prix, t'as pas envie de savoir, quoi.
Mais c'est vrai que quand j'étais revenu à Lausanne, il y a quelques, ouais, 10 ans, eh ben, je vivais dans un appartement où les murs, quand tu rentrais, les murs étaient tout gris avant de rentrer dans ton appartement. Et ils étaient en béton. Et c'est vrai que la première fois que je suis rentré, je me suis dit, mais ils ont pas repeint les murs, c'est bizarre, et c'est gris. Alors maintenant, il y en a plein, hein, mais à l'époque, les bâtiments étaient nouveaux. Et voilà. Donc, tout le temps que j'ai habité là, qui était environ une année, non, ils ont pas repeint les bâtiments. Et maintenant, quand je passe devant, ils ont toujours pas repeint. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont repeindre le plafond, à part si c'est toi qui le fais.
Je vais pas essayer, parce qu'ils vont pas aimer quand je vais repartir.
Oh, voilà ce que c'est. Bon, est-ce que c'est pour des raisons d'économie? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que c'est la saison des résultats, donc de la tech en tout cas, les autres sans doute aussi. Tiens, je me suis jamais posé la question. On sait qu'il y a des saisons de résultats dans la tech. Oui. Est-ce que tout le monde est maintenant? C'est universel, non? Ou bien c'est à travers l'année?
Je dirais que non. Il y a des quarters différents. Alors franchement, la plupart des boîtes un peu plus standards qui sont pas forcément à la bourse, de toute façon, elles ont les résultats annuels. Donc, c'est plutôt janvier ou alors juillet. Il y a pas mal de gens. Mais je dirais la plupart des sociétés un peu traditionnelles ou normales, c'est de janvier à décembre. Après, dans la tech, c'est chaque quarter. Et chaque quarter, disons, ils ont fait des fins d'année qui peuvent différer. Donc, tu vois, quelqu'un qui commencera son début d'année, genre en octobre, et puis quelqu'un d'autre qui la commencera en juin, et puis d'autres en janvier. Donc, ça diffère vraiment, et il y a des pour et des contre à un peu, ça dépend un peu du business dans lequel on est. Mais je dirais la tech, ben là, on voit un peu tout ce qui s'est passé depuis une année, puis c'est un bon cycle de finir vers mars, à fin d'année.
Ok. Bon, alors, Mike, tu as regardé un petit peu la vue d'ensemble des résultats qui ont été annoncés. On va parler dans les détails de chacun, mais qu'est-ce que tu vois comme tendance en ce début d'année? Enfin, on arrive gentiment au milieu, hein, mais 2024.
Ouais. Ben déjà, on voit quand même pas mal de bons résultats des gros, hein. Notamment, Amazon qui fait plutôt bien, Google aussi, son ad business qui augmente. En fait, une des choses qu'on voit, c'est tous les ad business, que ça soit de Meta, de Google et d'Amazon, ont grandi. Et d'environ, parfois plus de 10%. Donc, c'est vraiment, on voit que le ad business qu'ils ont réussi à créer augmente énormément. Malheureusement, j'ai pas encore regardé Netflix, mais je pense que leur ad business aussi grandit. J'avais entendu que les résultats étaient bons. Et ça, c'est vraiment un learning qu'on voit partout. Une boîte qu'on pourrait dire, ah, elle va couler, elle va se faire manger par les autres, Snap. Vous vous souvenez de Snap, hein, ce réseau social qui innove alors que tout le monde lui pique ses features et les inclut dans ses apps. Eh ben, eux, ils ont aussi augmenté de 25% leur advertising sales comme ils ont, et ils ont fait un plutôt bon résultat.
Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est comme quoi les résultats, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un peu standardisé. Hein. C'est un peu le but de ces boîtes en bourse, c'est qu'elles peuvent pas raconter tout ce qu'elles veulent, ou si elles racontent ce qu'elles veulent, quand même mettre un petit peu des petites histoires. Et il y avait une histoire au mois de mars qui avait été pas mal commentée, puisque tu parles d'Alphabet, de Google, c'est que Google avait perdu une grande partie de son volume de recherche. Donc au mois de mars, hein, ils étaient passés de 86% à 77%, donc tu vois, le truc fou, mais en fait non, quoi. En fait, les stats se reviennent exactement à ça, donc c'est peut-être plus un petit souci dans la mesure qu'autre chose. Et au final, c'est le truc où il faut pas s'exciter sur des chiffres comme ça d'un mois à l'autre, mais il faut plutôt regarder les grosses tendances, et puis surtout de ce que les entreprises communiquent et ce qu'elles doivent communiquer. Donc, je trouvais intéressant. Et donc, tout va bien. Donc, on est content.
C'est vrai qu'on a vu, hein, en deux ans, 2022, ils ont fait les coupes, ils ont un peu restructuré tout ça, 2023, un peu une année comme ça. Mais leurs résultats, ben voilà, ils ont tous fait les coupes qui fallait, entre guillemets. Donc, on se sépare de 10, voire de 20% de tout. Le overhead qui considérait comme un overhead, qui sont souvent les gens. Et puis, je pense qu'ils ont enlevé 2-3 perks et avec ça, ils sont tous devenus beaucoup plus bénéficiaires. Et quand même, elles se reposent sur un écosystème qui est incroyable. De toute façon, si tu veux faire de la pub actuellement, t'as pas vraiment le choix, hein, que ça soit Google, que ça soit Meta, donc l'écosystème Facebook, que ça soit maintenant un peu plus TikTok, hein, qui commence à faire. D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver les résultats de ByteDance, mais je les ai pas trouvés. Peut-être c'est parce que je parle pas chinois.
Et, ouais, c'est une entreprise privée encore, ByteDance. Ouais. Donc ça...
Ah, c'est pour ça, parce que je pensais qu'ils étaient à la bourse.
Non.
J'étais là, un peu comme Alibaba, je me suis dit, je vais trouver des trucs qui sont privés. Wow.
Ouais, c'est encore une entreprise privée.
Et donc, j'ai pas trouvé, mais je vois qu'ils ont créé un écosystème qui cartonne, quoi. Où, tu es dedans.
Et ce qu'il faut voir aussi par rapport à ça, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tellement cette croissance encore de Google, de Meta et tout, c'est parce que on se souvient il y a quelques années, Apple, ils ont empêché le tracking à travers les sites. Mm-hmm. On se souvient ça, c'était le ATT, où en fait, maintenant sur ton iPhone, pour qu'il puisse te traquer entre par exemple, des pubs que tu vois sur Internet, et ensuite quand tu vas acheter dans une app ou machin, pour pouvoir faire entre les sites, donc quand c'est pas la même entité qui a l'information, eh ben, il faut l'autorisation de l'utilisateur, qui ne la donne jamais, donc évidemment, ça marche pas. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise les gros qui ont leurs propres données. Et donc ça favorise en gros beaucoup Facebook, parce que Facebook, ils sont tellement gros, ils ont tellement de données, qu'ils peuvent faire du machine learning pour prédire si t'as acheté quelque chose. Et en fait, ils arrivent de manière assez efficace à combler l'absence de données avec des machine learning et des prédictions. Mais pour faire ça, faut être Facebook. Et c'est pour ça que Snap, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal avec le ATT, parce qu'ils sont trop petits en scale. Et donc c'est pour ça que les résultats positifs, parce qu'on disait tu disais dans les liens que t'as envoyé, celui que Snap monte encore, donc c'est assez étonnant. Même si, je t'invite à quand même regarder le cours en bourse de Snap. Ouais. Ils sont à leur niveau de 2019, donc ouais, voilà, c'est pas encore ça reste une entreprise qui a du mal parce que ils sont un peu sub scale, quoi.
Oui, non, ça c'est clair. Est-ce qu'ils y arriveront? Moi, en tout cas, j'entends parler de Snap avec les plus jeunes. Il me semblerait que c'est un écosystème dans lequel ils rentrent facilement. L'explication que j'ai, c'est que leurs parents n'y sont pas.
On est bien d'accord.
Et donc, vu que les parents n'y sont pas et puis qu'ils connaissent que dalle, ils peuvent chatter entre eux, avoir des groupes, les parents ferment leur gueule, ils savent pas ce que c'est. Je suis sur Snap. Il me semble que c'est un peu ça qui permet à Snap de grandir, bien qu'ils avaient déjà mis des H-gate, je crois, sur Snap, des choses comme ça. Mais c'est un endroit un peu où les jeunes se retrouvent. Ouais. Je regardais les résultats de Netflix que j'avais oublié de regarder, et c'est vrai, au dernier quarter 2023, ils ont dit revenue grew by 8.2%, donc 8.2% à 8.8 milliards, ce qui est pas mal, hein, et presque 1 milliard de net income. Bon, c'est plutôt pas mal, je dirais. Donc on voit aussi que là, c'est pas seulement la pub, mais la subscription. Dès que t'as critical mass, je sais pas vous, mais moi, j'ai coupé, par exemple, Disney Plus, parce que j'estimais que, j'avais pas assez de contenu, mais par contre, Netflix, j'ai jamais coupé. Donc, je sais pas comment vous réagissez. Est-ce que vous avez coupé Netflix ou est-ce que vous avez fait des coupes dans les choses que vous regardez?
Alors, moi, j'ai encore l'abonnement de mes parents. Donc, je m'arrange avec ça. Et effectivement, eux, le seul qu'ils ont, c'est Netflix. Je sais que les parents de ma copine, c'est pareil, c'est que Netflix.
Mais ça veut dire que tu dois payer les 18 euros pour être au moins deux dessus. Ça, tu as le droit, finalement. Parce que sinon, oui, ouais. Si tu payes que 12 euros ou 10 euros, tu ne peux pas être deux. Tu peux pas être
même,
deux,
même quand tu payes pour deux, c'est que dans la même maison, théoriquement. Ah, mais en Europe, ils n'ont pas encore fait le... Je ne sais pas, en tout cas, moi, je n'ai pas de problème. Même en étant entre la Suisse et la France, je ne sais pas trop.
Ouais, ils gardent pour quand ils auront un petit coup de mou, puis qu'ils ouais, gardent, t'as besoin de exact. Remettre un petit peu de...
Exact. Comme ils ont fait aux États-Unis, un peu crackdown, ouais. Comme ça, ouais, ils ont ça, un petit coup de mou, ils savent qu'ils ont... Ouais, il faut toujours avoir des petits coussins, quoi, dans le budget, parce que sinon, tu peux te faire chier. Il lançait quelque chose, regarde, il rigole, Ben, il lançait quelque chose à l'État. T'as intérêt à avoir des petits coussins.
Bon, alors, on n'a que des coussins, hein. faut chercher le reste. Mais est-ce qu'il y a des résultats qui t'ont surpris? Donc, on voit effectivement, c'est toujours un petit peu ces résultats, c'est presque comme les instituts financiers, ces boîtes tech, tu sais, sont un petit peu en décalé du reste du monde. C'est-à-dire qu'on voit que maintenant, le chômage monte un petit peu aux États-Unis. Donc, l'économie réelle, comme on dit, est en train de commencer à souffrir un peu. Mais la finance et la tech, eux, ils ont passé le cap et puis ils sont déjà en train de prévoir la suite. Y a des choses qui t'ont semblé, voilà.
Ce qui m'a étonné, mais pas vraiment, c'est quand même les résultats d'Apple qui decline, donc qui descendent de 4,3%. Bon, ils sont quand même à 90 milliards hein, pour les for the 3 months. Pour les 3 premiers mois de l'année, donc c'est pas si mal. Mais on voit que les téléphones, les ventes de l'iPhone ont diminué de 10%. Et une des grandes raisons qu'ils disent, c'est quand même qu'ils disent que voilà, les ventes dans le Greater China Asia Region, notamment Greater China, vont beaucoup moins. Et elles ont diminué de 8,1%. Donc c'est China, Taïwan. Et Hong Kong, tu vois, ils appellent ça Greater China, comme ça c'est politiquement correct. Et je dois dire que bah c'est un peu le ressenti qu'on a hein, quand on va là-bas. Quand je suis allé en mars, je suis allé en Chine et à Taïwan et Hong Kong. Alors Hong Kong, on voyait que ça reprenait du poil de la bête, aussi parce que le tourisme reprenait, notamment du mainland China, donc beaucoup plus de touristes. Et Hong Kong vit quand même beaucoup du tourisme, mais en Chine c'était encore difficile et à Taïwan extrêmement. Donc ça ne m'a pas étonné, mais voilà d'où un peu cette grande tendance à être trop impacté par la Chine, d'où l'impact que tout le monde va en Inde, dont nous, hein. On essaye de trouver des solutions parce que sinon finalement il y a trop grosse dépendance sur la Chine de manière générale pour n'importe quelle compagnie. Donc à faire attention et je pense que elles le subissent maintenant, mais je pense que dans quelques années ça sera plutôt une bonne chose pour elles d'avoir un peu diversifié.
Ouais. Bon, 110 milliards de rachats d'actions hein, aussi autorisés par le board d'Apple. Donc voilà, c'est tu peux t'acheter quelques Netflix avec ça. Mais bon,
110 milliards, donc... bah, ça tu fais quand t'as énormément de cash. Tu rachètes tes actions et puis finalement, bah, tout le monde, bah, voilà, tu les rachètes en tant que boîte. Après, en tout cas, moi, ça c'est en Suisse, tu peux racheter jusqu'à 10% en tant que société. Tu peux racheter jusqu'à 10% de tes propres actions, mais pour une période de 7 ans seulement. Après, t'es obligé de les détruire, en guillemets. Donc, tout le monde devient plus riche et de payer des impôts. Ou alors, de les faire racheter par quelqu'un.
Ouais. Ce qui est logique. T'as pas envie d'être, enfin, tu veux pas être propriétaire de toi-même, toi. Enfin, c'est,
oui.
Sinon, tu
en tout cas, c'est limité dans le temps. Je connais pas les règles aux États-Unis, hein, je dois vous dire, mais je connais les règles en Suisse. Je sais pas si c'est les mêmes.
Je crois qu'ils les détruisent de toute façon, non? C'est ça le but. Tu vois, le but, c'est juste de faire monter le cours de l'action.
Oui. Oui, mais après tu dois payer des impôts sur ça. C'est pour ça que si
ça dépend des pays, je pense. Ouais. Tu vois, de la même, je pense que chaque pays doit avoir ses règles.
Je suis pas fiscaliste, mais en tout cas voilà, c'est un peu ce qu'on ressentait, hein, le fait que Apple n'ait pas des résultats excellents. Est-ce que c'est la fin d'Apple? Est-ce que c'est la fin de la dominance d'Apple? Je regardais encore un petit croquis sur Twitter de Warren Buffett où qu'est-ce qu'il a investi dans les différentes compagnies depuis 1960. Tu sais, un de ces charts qui bouge comme ça avec puis t'avais Coca-Cola, American Express hein, qui battait pendant quelques 20 ans et tout d'un coup t'as Apple et puis Apple et c'était marrant pour quelqu'un qui aimait pas les technologies à la base. Je crois que c'est maintenant 52% du portfolio de Warren Buffett, donc de Berkshire Hathaway, est technologie. Donc une fois qu'il comprend le phénomène, il investit quand même. Donc, voilà.
Ouais. Mais bon, il a par rapport à son investissement global, il a enlevé 13% de ce qu'il avait dans Apple. Donc oui. Donc c'est beaucoup hein,
Mais il avait presque 100 milliards. Donc, je vais dire, c'est énorme.
Oui, mais tu vois, mais c'est le signe que justement, ils sont incroyables, c'est cette capacité à très gentiment rentrer et sortir. Tu vois, c'est pas qu'il va sortir d'Apple. Enfin, c'est pas des boîtes qui d'un coup va dire, je suis plus dans Coca, je suis plus. Mais c'est cette capacité à hop sur 5 ans, back, sur 10 ouais. ans et ça oui. franchement et puis toi à le faire à pas toujours au bon moment, mais globalement dans l'ensemble au bon moment,
au bon moment c'est, ouais. c'est étonnant ouais. Il y a un côté mais c'est vrai fascinant, ouais. mais tu regardes quand même que finalement ils les considèrent comme Coca-Cola, comme American Express, c'est comme voilà, comme PG&G où il investit aussi, où c'est un peu des nécessités.
Et c'est ouais, vrai qu'il y a pas mal d'infrastructures aussi, ouais. les assurances, les écoles.
Ce
les boring businesses, pense, c'est les meilleurs.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Warren Buffett, il investit oui, dans les boring businesses, dans ceux qui, ou de par leur position, ils font des profits. Oui. Et quand ça devient, comment dire, quand ça dépend de l'exécution, quand ça dépend de, ah, est-ce qu'ils vont réussir à faire une stratégie qui marche, ben là, en fait, c'est pas le domaine de Buffett, tu vois, lui, c'est pas son truc. Et donc, ça correspond, je trouve, un peu avec la phase dans laquelle Apple est, soit ils arrivent à trouver un relais de croissance avec le AI, ils arrivent à se positionner bien dans finalement peut-être une nouvelle ère de la tech, un peu comme il y avait l'iPhone, enfin c'est eux qui ont initié la vague, mais c'est un peu la même chose quoi, t'as les vagues et à voir donc s'ils arrivent à faire ça ou si c'est juste ben ça devient un une entreprise à la Coca ou machin qui est stable, qui fait des bons revenus, qui a des marges incroyables, mais où il y a peut-être moins de croissance.
En tout cas, il y a une boîte qu'il n'a pas achetée encore, Warren Buffett, ça a été commenté, justement pour voir, c'est un petit peu le baromètre de maturité. Hein, et une boîte qui n'est pas encore dans la liste, c'est Nvidia,
oui.
Qui reste encore un petit peu, peut-être trop tôt pour ce type d'investissement. Bon, comme d'hab, ils ont.
Oui, ben, disons, il semblerait qu'ils soient plutôt impactés par un shortage ou des délais dans la possibilité de produire des chips plus que la capacité de les vendre. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas à quel point c'est les sociétés qui en achètent moins ou qu'ils arrivent moins à les produire. Il semblerait que c'est plutôt la production qui joue un rôle problématique dans leurs résultats qui sont excellents, mais qui pourraient être encore incroyablement plus excellents. Donc, je me dis. Ouais, c'est, mais on va voir jusqu'à quand ça dure. Parce que quand t'écoutes, justement, bah, les gars comme dans All In, où, quand ils parlent de ce genre de choses, je trouve que c'est toujours intéressant. C'est vrai que, bah voilà, les gens sont en train d'acheter des serveurs pour grandir, mais ça va s'arrêter. C'est comme bâtir l'infrastructure. La question, c'est quand? Est-ce que c'est un cycle de 3 ans? Est-ce que c'est un cycle de 5 ans? On sait pas.
Il y a une chose intéressante dont tu nous as mis un lien vers un article du Financial Times, c'est les investissements, le CAPEX, comme on dit.
Les investissements en RD que tu peux déduire fiscalement sur plusieurs années, c'est comme ça. Ouais. L'OPEX, c'est l'operating et le CAPEX, c'est tes investissements.
C'est ça, et Microsoft est pour les CAPEX dans l'intelligence artificielle, ils mettent un peu moins à 13%. Baidu a un peu moins de 10%, et puis Google, Tencent, Meta 6-7%, et puis en fait c'est toujours le même truc que t'as, c'est pour que les cloud providers hein. Mais mm-hmm. c'est assez intéressant de voir quand même la différence toi entre Microsoft et les Google Meta, c'est simple au double de leur en pourcent, donc c'est pas
peut-être qu'ils ont aussi rattrapé hein.
Ouais.
Ils ont peut-être à rattraper un peu leur retard, hein, Microsoft. Et puis, ils se font all-in actuellement pour essayer aussi de développer tout le côté copilot au sein de toutes les entreprises, tu vois. Parce maintenant, on a tous Office 365 copilot qu'on peut utiliser. En tout cas, voilà, toutes celles qui ont Office 365. Et je pense que ça doit coûter cher en infrastructure, je pense.
Ouais, et puis bon, c'est vrai que tu as raison. Hein. De nouveau, c'est juste en 2023, effectivement, il y a peut-être des effets de rattrapage et autres, mais ça pointe quand même vers le truc qu'on sait. Puis encore eu des annonces sur le fait que Microsoft est en train de développer, bon, ça on s'y attendait, hein, son propre modèle, et où ils ont investi, après avoir investi quand même pas mal dans OpenAI, mais ils veulent pas être dépendants d'un investissement. Donc, ils prennent aussi leur destin entre les mains. Pas du tout une surprise, mais ça va être intéressant de voir le modèle de Microsoft maison. Je pense que ça peut être une surprise assez intéressante. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses, ou bien est-ce que vu qu'on parle d'AI, on profite de passer à notre petite rubrique intelligence artificielle, et pour ça, bah, c'est évidemment Baptiste qui est le plus capable d'en parler. Donc Baptiste, toi, qu'est-ce que tu as vu cette semaine qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'intelligence artificielle?
Je pense que le buzz des deux dernières semaines, c'était le test des, vous savez, de ces AI gadgets. Donc, il y avait le AI Pin de Humane et le Rabbit R1. Et donc, c'était intéressant de voir déjà qu'en fait, bah, globalement, il marche pas. Donc, ces deux devices, juste pour rappeler peut-être. Le Humane, c'est vraiment, c'est un genre de pin qu'on met sur son, sur
c'est
sa poitrine.
Tu nous avais parlé à la Fashion Week, Mike.
Oui, exact.
Tu nous avais parlé avant la hype. Donc,
tu vois, les fashionistes, ils sont vraiment hype.
Ouais.
Donc il y a ce device là et il y a le Rabbit R1 qui est en fait un mini téléphone sur lequel il y a juste ou sur lequel tu peux que interagir avec une IA. Et donc c'est intéressant de voir que globalement il marche pas pour l'instant, à la fois parce que ils sont tellement pressés pour les sortir sur le marché que le software il est complètement en retard et donc il faut attendre des mises à jour pour avoir des fonctionnalités de base comme mettre un timer, alors que bon, tu dirais bon, s'il y a un truc qu'il devrait pouvoir faire et s'il y a bien un truc que Google Home et ça et Alexa ils savent faire, c'est mettre des timers, donc voilà. Mais même plus intéressant, ce que je me demandais, c'est en fait on parle beaucoup de ok, le device il est pas comment dire, il est pas parfait, marche pas bien et tout, mais ils ont quand même pas réussi à démontrer un usage, tu vois. Personne n'a dit, ah, le AI pin, ah, c'est cool de parler à... Tu vois, enfin, si, les gens disaient, c'est cool de parler à une IA, mais ils disaient rien, il n'y avait aucun use case qui était là, ah, bah, j'ai pas besoin de mon téléphone. Mmh. Et donc, c'est un peu ça le souci.
Ouais, mais c'est vrai qu'ils parlent, bah, une des grosses différences, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le Humane, c'est $700 plus $24 d'abonnement mensuel, tandis que Rabbit, ils prennent un petit peu l'autre côté, c'est en plastique, c'est $200, et puis tu mets ta carte SIM, donc tu payes ce que tu veux. Mais par contre, le truc qui tue dans les deux sens, et puis c'est là où je suis quand même intéressé de voir ce avec quoi va venir Apple en AI intégré, c'est le temps que ça prend, parce que entre le moment où tu as posé ta question et le moment où la réponse vient, t'as plus envie de savoir, en gros. C'est trop lent, quoi. Et c'est vrai que dans tous les tests, tu vois vraiment ce lag qui tue, quoi.
Et c'est là que je vois que OpenAI et notamment ChatGPT, ils ont fait des sacrés, sacrés efforts. Et quand tu les utilises, et même après tu utilises Microsoft Copilot, franchement, t'es déçu de la rapidité de Microsoft Copilot. Tu sais, ça traîne, ça si. Franchement, c'est peut-être ça aussi un avantage qu'ils ont sur les autres, c'est la rapidité de leur algorithme pour te trouver des réponses qui sont top. Ouais, moi, j'applaudis hein, la form factor, essayer de trouver un truc. Moi, je me dis que ça, c'est vraiment le téléphone. Pourquoi changer? On a déjà tous un téléphone dans les mains. Moi, j'ai peut-être une question pour vous. On sait que Apple, voilà, Siri, c'est vraiment de la daube, c'est horrible. Ils sont en train de faire leur shopping pour aller sur différentes plateformes. Selon vous, quelles plateformes vont-ils choisir?
J'ai aucune idée. Parce que ça dépend de tellement de choses, du produit qu'ils veulent faire, de l'approche. Le truc, c'est que en connaissant Apple, je dirais, ah, ils vont faire quelque chose de très conservateur. Ils vont juste peut-être, par exemple, un peu améliorer Siri. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas vraiment peut-être même besoin d'aller chez Google ou machin, ils peuvent le faire en local ou quoi. Mais quand on entend Tim Cook, enfin, je ne sais pas si vous avez regardé dans les résultats financiers, il disait « oui, on va faire du AI et machin », il a dit « le MacBook Pro M3, c'est le meilleur laptop pour le AI », ce qui veut dire à peu près rien. Mais ça veut dire qu'on dirait qu'ils ont un peu la pression. Et donc, je ne sais pas ce que ça peut donner, parce que tu vois, ça se trouve, ils vont se dire « bon, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et en fait, ils vont dire « bon, on va juste mettre Google Assistant sur le action button ou j'en sais rien ».
Ouais, c'est ça question. C'est est-ce que tu prends Google et puis c'est ton concurrent numéro un avec Android. Hein, d'ailleurs, eux, ils l'ont mis, Gemini. Puis on entend parler que certaines personnes l'utilisent. Je ne sais pas si tu l'as branché déjà, ton Gemini, Baptiste, sur ton téléphone.
Non, moi, c'est Ben qui l'utilisait. Moi, je ne l'utilise pas trop.
Toi, tu as branché le Gemini dessus, la nouvelle version? Non, parce qu'il paraît, en tout cas j'entendais Kevin Rose en parler, qui disait qu'il était étonné du feedback que ça commençait à générer, intéressant. Mais voilà. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il l'avait jamais utilisé, mais peut-être ça vaudrait la peine de lâcher le monstre.
Mais la question peut-être parce que finalement Siri, ce qui est pathétique, c'est en tout cas à l'époque, moi je n'ai pas utilisé depuis un moment, mais c'est en gros c'est la synthèse et la compréhension. Si tu veux, est-ce que ces modèles-là, par exemple, faire tourner un Whisper un petit peu large en local, toi, bien optimisé tout ça, est-ce que c'est vraiment si difficile? Est-ce que tu as vraiment encore besoin de passer par du cloud ou pas, Baptiste, tu penses?
Je pense que si, parce que c'est ça le truc qu'Apple, ils ont le chip et tout. Ça, je pense que non. La synthèse vocale, c'est sûr, ça pourrait être sûr que non. Maintenant, Google, même, ça fait quelques années sur leur téléphone, tu sais, ils ont le Tensor Chip et ça marche vraiment très bien. Donc, non, je pense pas que la synthèse vocale, ce soit le problème. La question, c'est plus, OK, comment est-ce que c'est quoi le modèle derrière? Est-ce que c'est juste interagir avec un chatbot? Auquel cas, je dirais, il faut quand même un chatbot aujourd'hui, tu peux pas le faire tourner sur le téléphone, tu vois. Je pense que, à moins qu'il y ait vraiment des progrès, machin. Tu vois, si tu fais un full chatbot LLM comme ChatGPT, j'ai du mal à imaginer que tu puisses le faire comme ça. Mais maintenant, imagine,
tu améliores juste Siri. Tu veux justement pas ça. Tu veux un truc Siri qui est capable de te mettre un timer, qui est capable. Et puis quand tu vas.
Mais qui marche mieux.
Autre chose, ouais, c'est ça. Et puis, du coup, évidemment, il va rien. Si tu lui dis quelle est la date de naissance de Outside, eh ben, il va aller chercher sur Internet. Mais pour dire tu mets un timer, il le fait tout seul. Oui. Toi, je pense qu'on va arriver à des trucs comme ça. Et mais ce qui est fou, c'est où que ça coince, toi. C'est que la technologie est là, c'est la chaîne de production. C'est toi, comment, c'est vraiment dur à expliquer du dehors pourquoi ils y sont pas encore. Il y a un moment, il doit avoir un goulot d'étranglement quelque part, mais j'arrive pas à voir où il est et je pense pas que ça soit la technologie.
Je pense que tu étais un peu trop, comment dire, ça fait pas tellement longtemps, tu vois, ChatGPT, ça fait quoi? Ça fait un an et demi maintenant? Tu vois, c'est, s'ils étaient un peu en retard juste parce que c'était pas une technologie qui était sur le devant de la scène, qui s'était peut-être pas complètement, qui s'était pris un peu, pris un peu de vitesse. Je peux imaginer que juste développer un produit comme ça, lancer la team dans une grosse boîte où t'as un standard de qualité qui est très très élevé, un an et demi, ça me semble c'est rien, tu vois.
Oui.
Enfin, je voyais chez Amazon encore, enfin, la moindre feature, ça prend des années parce que juste, il y a beaucoup de tests, d'infrastructures, enfin, c'est vraiment très très long. Juste, tu vois, on parle de maintenant, on va intégrer les choses avec les chips, tu vois, où tu veux que ton, comment dire, où tu veux dire, ah bah, Apple, leur avantage, c'est d'être intégré chip, machin. Dans ce cas-là, il faut que ton chip soit suffisamment puissant. Le truc, c'est que le chip, pour le fabriquer, il faut au moins, je sais pas, genre, il faut que les plans de ton chip, ils soient validés. Allez, disons, pour être généreux, un an et demi avant la commercialisation du téléphone, enfin, ça prend vite beaucoup de temps, quoi, si tu veux un produit intégré de bonne qualité et où il y a vraiment un différenciant. Parce que soyons francs, enfin, est-ce qu'il y aurait vraiment une valeur ajoutée pour Apple de dire, ah, maintenant, vous pouvez utiliser Google Gemini ou même si c'était le truc interne depuis le bouton de Siri.
Bah, vraiment, j'ai l'impression. Ce qu'on attend, toi, et c'était l'hypothèse, j'étais passé au rendez-vous tech là, avec notre Patrick il y a quelques jours. Et lui, ce qu'il disait, c'est peut-être, il y a eu cette annonce de M4, des puces M4 dans les iPads. Et puis, moi, je me disais, mais à vue de nez, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, s'il y a bien un truc dont on n'en a rien à foutre, c'est ça. Mais je trouvais intéressant son point de vue et ça m'a assez convaincu, c'est de dire, ouais, mais justement, ils préparent la communication sur toute cette intelligence artificielle embarquée, mais ils vont pas la dire avec l'iPad parce qu'on s'en fout, mais ils te préparent, ils parlent déjà de la puce. Et puis, quand il y aura les grosses annonces de l'iPhone, là, ils vont revenir avec la même puce et puis te dire, bah, maintenant, regardez ce que ça fait. Donc, peut-être qu'effectivement, toi, ça fait un an et demi, deux ans. Donc, le temps de se mettre en marche, de faire tout ça, on est plus ou moins dans les temps, quoi.
En tout cas, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'ils vont pas créer leur propre modèle. Parce que ils entendaient dire à la Silicon Valley qu'ils étaient à la recherche de faire un partenariat avec un modèle. Moi, je pense qu'ils vont plus opter pour ChatGPT ou OpenAI. Moi, je pense qu'ils iront là parce que c'est le plus safe et le plus abouti. Ils vont pas aller avec leur concurrent numéro un qui s'appelle Google et Gemini parce que franchement, ça serait donné bien.
1 milliard par année, hein, leur concurrent numéro un, leur file pour être sur Safari.
Oui, donc, à un moment, je suis d'accord. Mais là,
c'est quand même ton copain concurrent. Hein.
Je suis d'accord que c'est ton copain concurrent, mais 20 milliards sur 90 milliards par quarter, ça fait quand même pas la totalité. Et ils sont bons en recherche, en search. Là, tu leur donnes vraiment accès. Ouais, tu les fais grandir grâce à ce que tu leur offres. Donc, moi, je pense qu'ils iront plutôt sur OpenAI. Et juste, ce que je comprends pas, c'est que tu as pas mal de concurrents, mais c'est pas ton téléphone. Tu as l'Alexa, tu as le Google Home, que moi, j'utilise, hein, qui répondent 10 fois, 100 fois meilleur que Siri, qui te donnent pas des liens Internet, mais qui te parlent. Et puis, peut-être, c'est ça la question aussi. C'est que moi, quand je parle à mon Alexa, j'ai pas la sensation qu'il est devenu encore beaucoup plus intelligent avec qu'ils ont introduit du LLM plus intelligent. Ça, c'est peut-être à toi, Baptiste. Est-ce que tu penses que vu que moi j'ai aucune idée, hein, puisque Alexa normalement ça c'est automatiquement mis à jour, tu sais pas. J'ai encore aucune notification où je lui parle quand même tous les jours de voir qu'il est devenu incroyablement ou qu'elle est devenue incroyablement plus intelligente.
Je pense qu'il y a vraiment il y a plusieurs choses là-dedans. La question, ce qu'on disait avant avec Ben, c'est que probablement, ils vont pas dire, maintenant chaque requête de Siri, c'est envoyé à ChatGPT ou à Gemini. parce que d'une part c'est trop cher, c'est lent, ça m'étonne que ce soit un produit intéressant. Ce qui est plus probable, c'est qu'ils utilisent de l'IA embarquée. Par exemple, imaginons t'as deux couches. D'un côté t'as de l'IA qui est embarquée dans le téléphone avec des nouveaux chips, avec plus de RAM machin, pour répondre aux questions simples directement en local. Et donc ça, ce serait juste un Siri un peu amélioré machin qui marche mieux. Et ensuite t'aurais une deuxième couche où les requêtes plus compliquées. Comment est-ce qu'il interfacerait? Est-ce que ce serait juste certaines requêtes automatiquement elles sont lancées à Gemini, ou est-ce qu'il faudrait toi l'invoquer? Bon, c'est pas super clair, mais voilà. Et dans un deuxième temps, tu vois, pour ces requêtes-là, ça irait sur le cloud. Et dans ce cas-là, pourquoi pas l'envoyer à Google? Parce que tu vois, sur Siri, quand tu fais des recherches, mais t'envoies des recherches internet, Google, bon, c'est pas forcément incohérent. L'autre truc, c'est que aujourd'hui, c'est probablement Google les seuls qui sont capables d'un point de vue infrastructure de le faire. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est très très le volume serait énorme.
Énorme.
Et aujourd'hui, la seule société qui a assez de GPUs pour faire les inférences, c'est Google. Mm. Donc, je suis pas forcément d'accord avec toi.
En tout cas, le syndicat des d'intelligence artificielle fonctionne bien, parce que j'ai posé la même question à Gemini et à ChatGPT, à savoir pourquoi est-ce que Siri est si nul, tu vois, question facile. Et les deux, alors disent Siri. Comme tout assistant vocal, a ses forces et ses faiblesses. Voilà. Dire qu'il est mauvais est un jugement subjectif qui dépend des attentes des utilisateurs. Et l'autre dit, Siri n'est peut-être pas parfait, mais il a certainement ses forces. Oh, les lèches-culs.
Oh là là, ils attendent les miens.
Ouais. On leur tend, ouais, c'est ça, ils disent, le partenaire commercial. Donc, les deux sont en train de soigner.
Je suis d'accord pour toi sur l'infrastructure. C'est vrai que tu as Meta et puis tu as peut-être Google ou Amazon, mais ils vont pas choisir Amazon ou Facebook. Et donc, Google, au niveau infrastructure. Et par rapport à l'Alexa, pourquoi est-ce que moi, qui ai une Alexa, je vois pas cette intégration plus rapide? Parce qu'ils auraient tout pour l'intégrer.
Parce qu'ils sont foutent d'Alexa puis qu'ils sont en train de le laisser tomber, quoi.
Ah, je suis pas d'accord avec toi. Alexa, je l'adore et il est chez moi et il va pas partir.
Je pense en partie ça, c'est en partie qu'ils s'en foutent. En partie que pareil, c'est dur de l'intégrer parce que tu peux pas juste dire, ah bah maintenant toutes les requêtes d'Alexa, on les envoie à LLM, parce que ça coûterait des blindes, tu vois, ça coûte très 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 cher. Ouais. Et pareil, le problème, c'est que tu veux quand même un assistant qui fait des actions, tu vois, qui joue de la musique, qui fait ceci, cela. Ça, c'est pareil, c'est pas trivial non plus, c'est faisable, mais c'est pas encore quelque chose qui est super répandu. ChatGPT, il fait que de parler. Parler, c'est facile, tu vois. Invoquer des fonctions, des trucs de manière fiable, c'est pas évident. Donc, c'est pour tout un tas de raisons, c'est dur à faire. Plus, probablement, un manque d'intérêt de la part d'Amazon, ça fait que, ben, c'est pas encore un produit qui est là.
Moi, je suis pas d'accord avec un manque d'intérêt d'Amazon. Alexa, ils en ont vendu des millions et il y en a des dizaines de millions en fonction, voire des centaines de millions. Donc, je vous dis.
C'était une des premières équipes où ils ont fait le ménage, hein. Enfin, en tout cas, l'année passée, à la fin de l'année, en novembre, là, ils ont bien dégagé dans l'équipe d'Alexa. Alors, tu veux dire, ils ont dégagé partout, donc faut pas lire plus que ça. Mais, ouais. Bon, à voir. Donc, c'est un petit pari. Est-ce qu'on va voir Alexa, Siri en tant que tel, ou bien ils vont juste se faire bouffer par le reste? Peut-être même, moi, je pense que le nom Alexa, Siri, ça sonne vieux. Moi, ça me donne pas envie. Et sincèrement, à mon avis, allez, c'est prédiction. Avant la fin de l'année prochaine.
J'ai une petite question pour vous. Quel est le pourcentage de part de marché aux États-Unis d'Alexa dans les smart speakers?
50%, mais ça veut rien dire parce que c'est pas un marché, enfin.
C'est un marché de naze, ouais. Moi, j'ai même 70%.
Et presque 65%. Et derrière, il y a qui?
Google Assistant, probablement.
Google Home avec 24, et vous allez pas deviner qui est le troisième.
Voilà, t'es déjà à 89%, donc le troisième.
Apple avec les HomePods.
Tesla.
C'est Apple avec les HomePods. Folie, hein.
Ouais, mais il n'y a personne d'autre, tu vois, c'est facile. Ouais.
Non, après, il y a Nest, Bose, GBL. GBL, il y en a quand même. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément des intelligents. C'est Bluetooth. T'as raison. Mais j'étais étonné déjà que HomePod, franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un en avoir un à la maison, à 18% des parts de marché. C'est assez dingue. Wow.
Bon. Ça te montre que c'est pas un marché très intéressant, je pense. Un petit point qu'il faut rajouter, c'est qu'on disait ils vont pas développer leur propre modèle, alors que c'est pas vrai, en fait. Ils ont déjà développé leur propre modèle, mais c'est des modèles qu'ils ont mis en open source et qui sont très petits, en fait. C'est pour ça que t'en entends pas beaucoup parler, parce que en comparaison de ChatGPT ou de Llama, c'est pas très intéressant, mais c'est des modèles qui sont qui, comme ils sont très petits, ils peuvent tourner en local. Et pour plein de petites fonctions, encore une fois, pour améliorer Siri, ben, ça peut être super utile. Donc, ça valide un peu notre théorie.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on était parti sur Rabbit et Humane, mais comme effectivement, ça marche pas hyper bien, et ben voilà, on a vite dégagé sur un autre truc qui marche pas hyper bien. Mais c'est intéressant parce que, en fait, c'est ce qu'on attend depuis un moment. On cherche toujours la prochaine plateforme. Alors, bien sûr, les LLM, c'est une sorte de plateforme, mais on cherche la plateforme physique. Hein, on avait parlé des lunettes de soleil de Ray-Ban la dernière fois. Mais bon, on voit que c'est pas Alexa et Siri et compagnie. On voit que c'est pas Humane et Rabbit, en tout cas pour les 5 à 10 prochaines années. C'est pas la AR, VR. Donc, c'est intéressant. Ça reste, voilà, on continue, voilà, semaine ou deux semaines après deux semaines, on attend, et un jour, ça viendra. Mais, ouais, c'est pas sûr. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses encore à dire là-dessus? Moi, peut-être, ou Baptiste, attends, peut-être on va finir le sujet d'abord.
Non, moi, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour cette semaine dans l'IA.
Ouais, il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup, on va dire, c'est le robot. Alors, en un mot, le robot qui a été lancé par nos amis de Hugging Face. En particulier, c'est une... Donc, qu'est-ce que c'est le robot? C'est simplement une librairie, enfin, une série de librairies en open source sur GitHub pour intégrer des modèles d'intelligence artificielle à la robotique. Alors, ça s'intègre évidemment, c'est qu'une partie du tout quand on fait de la robotique. Il y a tout plein de modèles physiques qui existent, d'outils qui existent. Donc, le but, c'est d'intégrer ces modèles à la chaîne de valeur existante là-dedans. C'est pas... Enfin, par exemple, si on doit faire bouger un bras, il doit apprendre à se déplacer, aller chercher un objet ou un autre. Donc ça, on peut améliorer avec justement de l'apprentissage. Mais tout le reste, le code, il faut quand même aller le chercher ailleurs. Les modèles physiques, il faut aller chercher ailleurs. Donc voilà, c'est pas, il faut mettre un peu de contexte. Mais c'est quand même hyper intéressant de deux choses. D'une part, que ça soit mené par Hugging Face directement. Et on l'a dit quand même assez souvent aussi ici, c'est que l'application de l'intelligence artificielle à la robotique, ça pourrait permettre de faire des bons. Et je trouve excellent que ça soit en open source. Donc, je me réjouis à fond de voir où ce projet va mener. Il a été annoncé, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est tout nouveau. Et voilà.
Comme est-ce que ce genre de projet, c'est hardware agnostique? Est-ce que tu peux le faire sur n'importe quel bras, finalement? Ouais.
Alors, je ne sais pas quelles sont les caractéristiques, mais oui, en général, c'est vraiment d'avoir des datasets. Le problème, c'est vraiment dans la robotique, la taille des datasets. Et donc, il faut des datasets très, très gros. Et donc, tu ne peux pas te dire vraiment, on se limite à un type de hardware. Parce que, en plus, le but, c'est vraiment d'avoir, tu vois, c'est un peu comme un LLM, c'est un peu plus général. Tu vois, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un peu général qui peut apprendre avec beaucoup de contexte des choses un peu au niveau, disons, d'un niveau de compréhension un peu plus haut que juste truc qui tombe, enfin voilà. Et donc ouais, c'est pas limité.
Ça serait intéressant. Moi, j'ai un bras de robot, ça m'intéresse au boulot, et ça m'intéresse de savoir à quel point. C'est vrai que quand tu le codes actuellement, c'est vraiment assez basique. Tu le codes, tu lui dis de faire des choses, puis finalement il te répète le test, mais c'est pas quelque chose que voilà, tu te dis voilà, s'il apprenait à comprendre comment la chose fonctionnait, puis il le refaisait plus intelligemment, peut-être ça serait intéressant. Donc ça m'intéresse parce que il y a tellement de gens qui ont des bras robotisés un peu partout qu'avec ça, ça va vraiment pouvoir permettre de le démocratiser puis de faire des petits pas en avant. Ça j'aime bien.
Ouais, et puis ce qu'il y a de super intéressant, alors je vois bien dans le monde des drones, alors c'est pas encore dans l'intelligence artificielle et etc, mais il y a des gros projets dont PX4 qui sont des projets open source, et c'est utilisé par énormément de monde. Alors c'est pas les DJI et autres qui ont beaucoup de parts de marché, mais ça a libéré la créativité d'un nombre d'entreprises assez colossal. Dans le temps actuel également pour en Ukraine, etc. Hein, mais au niveau commercial, ça a vraiment permis d'explorer plein de choses et de libérer justement des marchés complets. Donc voilà, le marché des drones, il est pas très grand, c'est peut-être un peu anecdotique. Donc je suis vraiment curieux de voir si en robotique, où il y a déjà quand même pas mal de choses, mais ça peut être encore une étape supplémentaire qui nous amènera vers soit les robots à la Elon Musk ou plutôt des petits robots mais qu'on pourra personnaliser beaucoup plus facilement. Donc ça, ça va être cool. Donc le robot, allez voir sur GitHub, c'est facile à voir. Ouais, Baptiste.
Ce qui est juste aussi intéressant de voir avec ça, c'est que c'est vraiment un dataset en plus, ce truc-là, le robot. Donc c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Tu vois, c'est pas juste une librairie. Tu vois, parce que l'open source, typiquement, c'est quoi? Bah, c'est comme PX4, par exemple, que tu cites. C'est une librairie, c'est du code. C'est pas, et certes, c'est cher, mais c'est pas incroyablement cher. Tu vois, t'as quelques personnes qui travaillent dessus à plein temps, et boum, t'as une très très bonne librairie. Tu vois, la plupart des librairies open source, t'as peut-être une ou deux personnes qui travaillent dessus. En fait, c'est vraiment pas beaucoup. Alors que ça, ces datasets, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et tu vois qu'en ce moment, dans la robotique, il y a un peu t'as un peu des gens qui veulent faire ça de manière fermée. Parce que, ben, ça coûte tellement cher, tu veux le faire pour toi-même et le garder. T'as des autres gens qui le font de manière ouverte parce que t'as un peu un stade, quand c'est vraiment de la recherche au début, tu veux que ce soit open pour que tout le monde puisse contribuer, pour partager un peu l'effort avec toi, tu vois. Et plus tard, quand ça devient plus proche de l'application, là, ça devient fermé. Et j'ai l'impression qu'on ne sait pas exactement où on est, tu vois. Est-ce qu'on est au stade où on est proche d'avoir un truc commercialisable? Tu vois, tu vois Tesla, j'ai vu une vidéo aujourd'hui où t'avais le robot qui, tout seul, il prenait des trucs et il les posait dans une boîte de manière super précise et tout. Encore une fois, c'est pas incroyable par rapport à un humain, mais tu vois qu'il y a quelque chose, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que dans quelques jours, bientôt, tu tombes sur quelque chose de très très avancé où il y a vraiment une valeur économique, ou est-ce qu'on est encore à la limite où c'est pas encore économiquement viable? Moi, j'ai déjà dit, je crois, dans le dernier NewTech, mais j'ai quand même l'impression qu'on est encore un peu à l'étape 2012 self-driving cars, où on se dit, ah, ça va être facile, et en fait, il te reste les 5% de fiabilité. Et
ils sont très durs à faire.
Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces gros projets, ces projets open source, parce que ça va permettre ces petites applications qui, commercialement, sont pas intéressantes si t'es un Tesla. Parce que Tesla, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de te faire conduire en ville, et toi, un peu partout. Et c'est donc, c'est un niveau qui est très élevé. Mais pour plein d'applications plus petites qui ont des petits marchés, eh bien, on va pouvoir faire des progrès avec ce qu'on a maintenant. Donc, je pense qu'effectivement, ça sera moins spectaculaire, mais j'espère un peu plus partout et puis que ça permette d'avancer. Mais tu as raison, les 5 derniers pourcents, ils vont continuer à faire mal. Bon, on va continuer avec d'autres tendances pour boucler la boucle. On a parlé des résultats financiers, mais là, on va partir sur de l'art et le marché de la musique, alors qui, évidemment, s'est beaucoup transformé. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est intéressant de faire un point où on en est. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé dans NewTech. Et Mike, toi, tu suis ça d'un œil attentif. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? Où on en est dans le marché de la musique? Oui, aujourd'hui, attentif. En tout cas, au niveau des États-Unis.
Hein, ouais, c'est au niveau des États-Unis, puis c'est Music Watch qui sort un rapport 2023. Hein. Donc, c'est toujours intéressant de voir, parce que de voir ces grandes tendances et puis de regarder ben, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe finalement au niveau de la musique. Alors, en quelques petites questions, donc 90% des Internet users stream de la musique aux États-Unis. Donc voilà, il y a 90%, ce qui est énorme.
Pourquoi les 10% qui...
Ouais, je sais pas. Bah, ils écoutent leur vieux CD. Bon,
ceci dit, dans le métro, l'autre jour, j'ai vu une dame avec un Discman.
Cassette ou CD?
Non, le CD, quoi.
Ah, ouais.
Et ouais, respect, quoi. Respect. Ouais, donc voilà, il y a enfin, deux, trois comme classique. Ça, puis on a 10%, ouais.
Ouais, elle devait peut-être écouter de la musique classique et tout. Mais voilà, 90%. Écoute... Voilà, il y a aussi des gens qui ont la modem line encore maintenant, hein, alors qu'on a de la broadband et puis donc je pense que potentiellement ça existe encore. Ça, c'était un truc. Une chose intéressante à savoir, c'est l'année dernière, donc voilà, le hip-hop a finalement dépassé classic rock comme le genre favori des Américains. Donc ouais, j'étais étonné à ça parce que je me croyais que c'était il y a bien longtemps, mais non, voilà, quand même preuve que le hip-hop gagne encore du terrain. Voilà. J'avais pas que classic rock était le deuxième, j'aurais peut-être dit country music aux États-Unis, mais voilà, c'est un peu trop Bible Belt la country music. Classic rock, c'est un peu plus mainstream, on va dire.
Ouais, si même Taylor Swift a fait sa conversion, je pense que ça veut dire, ouais.
Une chose intéressante, c'est que ce qu'on a vu, puis vous l'avez peut-être vu dans les magasins où vous êtes allé, il y a un revival du vinyle et des gens qui achètent le vinyle.
Moment, ouais.
Ouais, ça fait deux, trois ans qu'on voit ce revival-là et il semblerait que la tendance est là pour durer parce que voilà, la plupart des vinyle buyers, donc 90% des vinyle buyers disent qu'ils vont continuer à en acheter en 2024. parce que c'est vraiment un médium qu'ils aiment et qu'ils aiment posséder. Je pense que dans un monde digital, on aime posséder quelque chose. Et c'est clair qu'au moins un vinyle, on peut le mettre contre son mur, on peut regarder, c'est beaucoup plus gros qu'un CD. Et puis, il y a une réelle raison de l'obtenir, finalement. Donc, je trouvais intéressant.
Par contre, je trouve que ça avait, je trouve même ça presque bête de mettre les vinyles dans le, de comparer les vinyles au streaming, parce que tu vois, c'est comme si maintenant on mettait les par exemple, tu vois, chez moi, j'ai des posters de cinéma.
Oui. Bah,
c'est comme si tu comptais les posters de cinéma comme, ah, les gens, ils ont quand même du revenu Netflix, tu vois, ça. Ouais. Ça a rien à voir, parce que tu prends, enfin.
Ouais, mais alors, je te dirais, si c'était.
Je sais pas la propriété intellectuelle que t'achètes.
Parce que je dirais que les gens qui ont des vinyles, ils les écoutent. En tout cas, moi, j'ai parlé à des personnes qui ont des jeunes qui achètent des vinyles. Les enfants, ils me disent, ouais, leurs adolescents, ils l'écoutent. Ils font pas que le mettre, c'est pas que pour être visuel sur son mur.
Mais tu vois, c'est pas là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi, j'achète des vinyles, j'ai pas Spotify.
Ouais. Non, non, ça.
Donc, je maintiens, j'ai un peu de mal à comparer les deux.
Non, mais c'était pour dire que la tendance semble pouvoir continuer. Et sûr, une chose dernière intéressante, c'est que le piratage continue à baisser. Et puis de moins en moins de d'utilisateurs. Alors ils ont pas mis un pourcentage là où j'ai mal lu l'article, mais continuent à partager, à utiliser du peer-to-peer type Pirate Bay. Et ça, c'était une grande question pour vous. Pourquoi? Et quel serait peut-être le lien avec la vidéo actuellement ou les films où là on voit que le piratage continue versus qu'est-ce que les films devraient faire peut-être pour arriver à ce niveau-là?
Je pense que dans la consommation que je vois autour de moi de musique, le truc, c'est que tu n'écoutes plus des albums.
Oui,
tu écoutes des trucs, tu écoutes des artistes, tu écoutes des chaînes, tu passes de l'un à l'autre. Et puis, on a pris l'habitude de ne pas être finalement enfermé. Tandis que si tu dois commencer à pirater, tu dois commencer à réfléchir, te dire, je veux tel, je veux l'album de Kanye West, de tel Celebration, va savoir. Et puis, c'est juste trop de boulot, quoi. Alors, je veux dire, si vraiment... t'es mort de faim, il faut aller pirater, quoi. Mais si t'es pas mort de faim, franchement, c'est trop simple, quoi.
Mmh. Ouais, la facilité.
Par contre, pour la vidéo, t'as pas obligé d'être mort de faim. Enfin, si tu veux avoir tous les abonnements, côte à côte, on a déjà fait, enfin, beaucoup ont fait le calcul. Mais là, ouais, tu peux commencer à réfléchir un peu différemment, quoi. Mmh. Et puis, tu utilises, c'est pas les trucs que tu écoutes, donc c'est vraiment, en musique, ils ont, c'est devenu un c'est consumable, quoi, un truc que tu... Ouais.
J'aime bien ton idée de dire que ce n'est pas quelque chose que tu réécoutes forcément. Un film, tu vas le regarder une fois, deux fois, trois fois si tu es un méga fan. Allez, il y a toujours des exceptions. Mais finalement, tu le consommes une fois, tandis que la musique, ça se reconsomme. Ça te remet dans le même état de joie quand tu réécoutes un morceau et tu peux le faire pendant des années. Donc, c'est vrai que cette reconsommation, les films ne l'ont pas. C'est tu payes une fois ou tu ne payes pas pour le voir. Ouais. Mmh. Baptiste, ouais.
Je pense que je suis d'accord avec ce que vous avez dit par rapport au piratage. Maintenant, je ne sais pas à quel point l'analogie avec la vidéo, elle n'est pas limitée parce que c'est un marché juste qui est beaucoup plus petit. Tu vois, le marché complet de la musique, je ne sais pas s'il y a dans les thunes, mais c'est, tu vois, c'est genre un AirPods. Enfin, j'exagère, mais c'est probablement proche du revenu qu'Apple ils ont pour les AirPods ou quoi. C'est beaucoup, mais c'est pas non plus. C'est pas les mêmes chiffres, quoi. L'industrie de la vidéo, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Et c'est quelque chose qui est plus fragmenté, il y a des contenus différents, enfin, c'est juste difficile à comparer. Maintenant,
t'as raison, hein, c'est naze, le marché de la musique.
Ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup.
Aux États-Unis, ça se calcule en dizaines de milliards, ils disent 28,6 milliards, mais je crois que c'est en grattant un peu tout, quoi.
Ouais, c'est ça. Faut regarder, attends, c'est quoi AirPods Revenue?
Ouais, donc ça par année, hein. Donc,
c'est beaucoup moins gros. Tu penses que le monde de la vidéo,
les AirPods, c'est 15 milliards.
Ouais.
Juste les AirPods. Tu vois, enfin, c'est pour ça que il faut garder les
échelles en tête. Mais même le, je pense que le film industriel, alors faut les trouver. Mais toi, c'est peut-être
16 milliards. Non, 8,5.16 milliards.
Mais c'est les films. Tu rajoutes les séries, tu rajoutes
cinéma worldwide, c'est marqué.
Tu vois, si tu l'étends un peu, que tu rajoutes que tu rajoutes les droits des sports et tout, tu vois, la vidéo, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de d'argent. Et, mais maintenant,
Ouais, c'est vrai que si tu mets que le sport dedans, déjà, ça fait mal. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est aussi un milieu qui est en train d'évoluer parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a Netflix qui est arrivé. Ensuite, tous les autres majors, les autres majors, les grandes entreprises Disney, il y avait, Paramount, HBO, blablabla, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Ils ont tous voulu lancer leur service. Maintenant, ils se sont rendu compte que c'est pas du tout une bonne idée, que c'est dur de faire de l'argent. Il y a beaucoup de churn, donc les gens ils s'abonnent, ils restent un mois et ensuite ils partent, et que c'est pas du tout, que c'est très dur de faire de l'argent comme ça. Et donc je pense que ce qui va se passer en fait, c'est quoi la solution quand les gens se désabonnent et qu'ils switchent d'un service à l'autre tous les mois? Bah, c'est de faire un énorme bundle et tu fais payer à tout. Et au lieu de faire payer 20$ par service, tu fais payer 50 et t'as tout. Et en vrai, je pourrais imaginer que dans quelques années, bah, comme avant, tu t'abonnais au câble. Et t'avais un peu tout sur le cable. Ben dans quelques années, tu feras la même chose. Tu t'abonneras à, je sais pas, Netflix et via Netflix, tu auras accès à tout. Ou alors peut-être ton abonnement de ton opérateur téléphonique.
Ouais, c'est ça. On va revenir à ça. Attends, ta prédiction, c'est que d'ici, allez, 10 ans, donc 2035, tu auras des Disney de retour sur Netflix.
Alors, soit ça, soit tu auras peut-être pas Disney, mais t'auras quelqu'un qui fera un genre d'agrégateur où, en payant, t'auras tout qui sera inclus. Tu regardes déjà en France, je crois que c'est maintenant chez Free.
Légal.
Oui, légal.
Il y en a plein qui ne sont pas légales que certains s'achètent.
Maintenant, chez Free, t'as Disney, bon, c'est l'abonnement cher, mais t'as Disney, Netflix et encore un autre, je crois, qui sont inclus dedans. Donc, je pourrais vraiment imaginer ça. Parce que d'un côté, Netflix, ils sont contents parce que c'est un client gratuit quasiment à vie, parce que tu changes jamais de box, tu changes jamais quasiment de box. Free, ils sont contents parce que ça leur, ils prennent un pourcentage de ça. Enfin, c'est vraiment,
J'ai parlé avec un mec de Swisscom et il m'a dit que c'est eux qui payaient pour avoir Netflix.
Ouais, mais ça, c'est aujourd'hui. Dans le futur, si t'as une guerre, je suis sûr que ça restera pas comme ça.
Ben, lui, il m'a dit quand même que c'était tellement un attrait pour les utilisateurs que eux, ils payaient pour que l'app, elle soit sur leur Bluewin TV. Donc, je pense que c'est un peu la même chose sur Free et d'autres. C'est eux qui demandent, donc c'est eux qui payent. C'est pas l'inverse.
Je pense qu'à un moment, ce sera plus le cas. Je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'à un moment, il y aura
Alors, j'ai trouvé, est-ce que selon vous, la musique, le monde de la vidéo, cinéma, tout global, est plus grand que la musique?
Ouais,
la question, c'est par un facteur de 10 ou de 40.
Ouais, 10, ça me semble bien, quoi. Oh, attention. Non. Si on rajoute les 300 milliards de l'industrie du podcast dans le audio, et musique tout seul, non.
Alors, la musique est de 28,6 milliards de dollars, le Global Music Industry Revenues.
Global, donc pas qu'aux US.
Non, global. Et, j'ai trouvé vidéo OTT de Statistica, 163 milliards de dollars.
Donc, on dit c'est juste par Internet. Ça me semble beaucoup.
Ouais, c'était ça que c'était écrit. Alors, après, j'ai pas été dig deep, j'ai ni demandé à ChatGPT. Mais voilà, on voit, un peu plus de 2, 3, 4, 5, 6, presque 7 fois. La grandeur de l'app de voilà. Alors j'ai pas été, mais en tout cas plus grand. Vous avez raison, beaucoup plus grand.
Ok.
Et peut-être c'est pas une si grande industrie que ça, mais elle a de l'impact. Tu vois, c'est vraiment un truc qui a de l'impact. Ça a de l'impact sur le medium, ça a de l'impact sur les journaux, ça a de l'impact sur nous. Donc tu vois, Taylor Swift, ça a plus d'impact que ce qu'elle rapporte finalement.
Ouais.
Intéressant.
Ouais. Bon, en tout cas, on est curieux d'avoir vos retours d'expérience là-dessus. Et est-ce que vous êtes de l'avis de Baptiste ou pas? Vous pouvez venir partager vos idées sur notre groupe Signal où on discute de tant de choses tranquillement. Envoyez-nous un petit mot à info@niptech.com si vous êtes intéressé ou où vous nous trouvez. Et puis, on vous envoie un lien pour venir dessus. Allez, on passe à la partie inspiration avec quelques recommandations de podcast pour commencer. Mike.
Oui, écoute, maintenant, c'est pas que je pense que je dois suivre une personne dans les podcasts. Oui, j'en suis. Mais ce que je partage souvent avec vous, c'est les podcasts que j'ai vraiment beaucoup aimés. Parce que j'en écoute une chier, je dois dire. Donc, j'en ai un qui m'a vraiment étonné. C'est le nouveau podcast. Enfin, c'est pas le nouveau, il est vieux, mais il a recommencé à poster après une longue pause, notre ami Kevin Rose, qui est un peu un des... Ouais, tu vous souvenez d'Ignition, hein? C'était lui qui a commencé vraiment à rendre le podcasting très, très connu, hein? Dans les années 2000, vous vous souvenez peut-être de Dignation Live. Et là, il interviewe des gens vraiment cool. Et il a interviewé l'auteur de ce livre, The Subtle Art of Not Giving Up.
Ah ouais.
Et moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours déconsidéré cette personne en me disant, ouais, ce titre, c'est un peu de la merde. Un peu comme The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Ouais, voilà. Et Écouter cette interview m'a donné envie d'écouter ou de lire le livre. Parce que franchement, un auteur intelligent, justement, qui est prisonnier de son propre titre de livre, qui a eu du succès, mais pas seulement à cause du titre du livre, mais aussi parce que le livre est plutôt ça, où il donne, toi, t'aimerais bien, je pense, Ben, parce que c'est très, comment on appelle les Romains, là, très stoïque.
Je vais le mettre dans ma liste parce que c'est la deuxième personne depuis 2 semaines qui reparle de ce livre. En me disant, écoute, tu serais surpris en bien. Donc, bon, je fais comme toi, je baisse la garde.
Je l'ai pas lu, mais je me suis dit, écoute, il y a des raisons des fois, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des bouquins et c'est pas forcément que c'est du plus mal. Baptiste, tu l'as jamais lu celui-là, The Subtle Art of Mind.
Ça me donne pas envie non plus, tu vois.
Ouais, exact.
Mark 172 000 ratings sur Audible, hein, énorme. 4,5. Donc, juste pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, quoi. Vraiment beaucoup, beaucoup, quoi.
Très bien. Alors,
toi, on est un peu snob. On lit tellement de ces bouquins. C'est marrant, hein. C'est marrant que.
Mais il faut faire attention à cette manière d'être aussi. Parce que moi, j'ai aussi vu des gens qui me disent, ouais, j'ai tout lu les bouquins. Mais non, t'as pas lu. Parce qu'il y a toujours une manière de transmettre un message qui peut aussi résonner dans le zeitgeist ou dans le temps actuel. Donc, je me le suis noté et je vais l'écouter, je pense. Celui-là, je vais l'écouter. Voilà. Un autre que j'ai adoré, est-ce que vous connaissiez ce documentaire My Octopus?
Bien sûr. Alors, si vous ne l'avez pas vu, My Octopus Teacher, moi, je l'ai adoré, j'ai ri, j'ai pleuré.
J'ai pleuré. Depuis, je ne bouffe plus d'octopus, d'ailleurs. Parce que je n'aime pas du tout ça. Toi qui étais un végétarien, mais depuis ce film, je ne mange. Alors, ça m'est encore arrivé, mais je crois une ou deux fois. Sinon, je veux plus manger. Il paraît qu'un octopus a le cerveau d'un enfant de 4 ans. Donc, bouffer un enfant de 4 ans, quoi. Moi, pas. Ou moi, plus, pour dire.
Ou plus trop.
Plus trop. C'est juste. Et il y a le créateur de Octopus Teacher qui parle sur le podcast de Tim Ferriss. Il s'appelle Greg Foster. Franchement, hyper intéressant, super truc. Alors voilà, écoutez-le. Il parle de sa vie avec la nature, de ses liens avec la nature. Et comme j'étais un peu dans ce monde naturel, je me suis dit il faudrait que j'écoute ça. Et j'ai entendu Tim Ferriss faire référence à un autre podcast qu'il avait fait avec quelqu'un qui s'appelle Boyd Vardy. The Lion Tracker Guides to Life, qui a écrit aussi un livre que je suis en train de lire parce que j'ai vraiment envie de le lire, est assez incroyable. Un gars qui vient d'Afrique du Sud, qui a vécu, dont le père avait un safari où c'est le premier endroit où Nelson Mandela est arrivé pour se reposer après être sorti de prison. Donc voilà, et qui avait vraiment développé, c'est un des premiers à avoir développé le safari business. Et lui, c'est le fils de ses parents qui ont développé ça. Et donc, assez dingue l'histoire. Et il raconte de ses anecdotes de fou. Il raconte des anecdotes où il est en symbiose avec la nature. Dans le monde de la méditation, on a différents mots pour raconter. Quand on fait un avec son état actuel, avec la nature, en hindouisme, ils appellent ça samadhi. Et il raconte ces moments-là quand il fait un avec l'animal et puis il raconte comment le faire. C'est vraiment fou. Franchement, en plus, il a un podcast, donc il parle plutôt bien. Je dois dire, waouh, j'étais blown away, je dois dire.
Ok, bon, merci pour la recommandation. Il y a un que tu m'as envoyé, mais évidemment, j'avais dans mon feed. Merci, Mike. C'est un de Huberman. Sur le dos, les mal de dos. Alors évidemment, c'est un sujet que j'ai connu intimement et donc j'ai beaucoup lu dessus. Mais vraiment, je me suis bien renseigné. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on entend toujours dire mais Huberman, il raconte un peu n'importe quoi. Enfin, il y a des gens maintenant, c'est devenu un petit peu, toi. Il y a toujours une industrie pour aller taper. Ouais. Et donc je me suis dit cool, parce que ça. C'est peut-être la première fois où je peux juger. Tu vois,
c'est juste ça. Ouais.
Toutes les autres fois, tu dis, alors sur l'eau froide, je connais un peu, mais tu vois, pas assez. Sur le dos, alors, je suis pas un spécialiste, mais disons, voilà. Et sincèrement, ce qu'il dit, c'est mainstream et dans tous les bouquins un peu spécialisés, c'est solide, il n'y a rien d'ésotérique. Quand c'est un peu, il le souligne bien. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon test de confiance pour Huberman. Et du coup, ça me donne confiance pour le reste aussi, s'il est toujours de la même qualité. Il parle de Stuart McGill, de gens comme ça, enfin des grands noms qui sont connus, qui ont publié, qui voilà. Donc, et puis il parle aussi des différences culturelles par rapport à la douleur, par rapport à aux États-Unis, ce qui est vu comme étant un petit peu justement ésotérique par rapport en Europe où c'est complètement accepté et tout ça. Donc, c'est aussi intéressant de voir que voilà, dans ces thèmes-là, il y a un côté culturel aussi à ce qu'on trouve acceptable ou pas. Bref, donc, Huberman Lab, on le recommande en général, mais en particulier si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même avez des soucis de dos, c'est vraiment une base qui devrait être écouté par toutes les personnes concernées, quoi.
Après, pour toi, tu valides le fait que ce qu'il raconte, ben, il y a des bonnes recherches et tout, avec tous les livres que tu as lus, tu te dis, le gars, il sait de quoi il parle, quoi.
Alors, de tout ce que j'ai lu et tout ça, je signe, si tu suis une partie de son protocole, si tu fais ce qui, enfin, si tu suis, que tu explores comme il propose, parce que tu gardes jamais tout dans un truc comme ça, mais, sincèrement, ouais, ça te permet de faire d'énormes progrès. Et puis, si tu fais pas, de comprendre pourquoi. Donc, ouais, voilà, j'étais très content, j'étais soulagé parce que j'aime bien ce podcast. Donc, voilà.
Okay, parfait. Eh ben, moi, j'espère vraiment ne jamais devoir le faire. Mais en tout cas, je vais pas me taper 2 heures de podcast. C'est pour ça que je t'ai envoyé, parce que quand je me suis dit, putain, il parle pendant 2h30 du sujet, quoi. Et puis, c'était pas un interview, hein. C'était lui qui parlait.
C'est une introduction. Parce qu'après, il parle de 3 personnes en particulier qu'il va inviter. Si tu veux, c'est pour ne pas avoir à parler des bases avec les invités, pour aller directement dans le vif du sujet. Donc, je me réjouis maintenant qu'il aille les inviter. Ouais.
Top. Très bien.
Bon, on suit avec un sujet un peu différent. Hein.
Ouais, un petit peu différent, parce que moi, je suis tombé sur des vidéos. Vous savez, moi, j'aime bien un peu les trucs wouhou comme ça, moi, hein, en ce moment. Ouais, ça fait bientôt 3-4 ans, on va dire. J'aime bien un peu ces trucs différents. Et là, je suis tombé sur une personne que je connaissais pas du tout l'autre jour, qui s'appelle Gita Malaz. Et elle parle en français parce qu'elle est hongroise et elle a vécu pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale.
Ah ouais.
Finalement, elle a écrit un livre, je crois pas qu'il s'appelle Le Scribe des Anges, mais il s'appelle quelque chose avec les anges, je l'ai pas encore lu. Et elle parle de ça, finalement. Elle dit que pendant la Deuxième Guerre mondiale en Hongrie, elle et ses amis, ils étaient un peu ils sont un peu coupés du monde et puis ils étaient dans une petite maison et les anges ont commencé à leur parler. Et donc, pendant presque, je sais pas, 6 mois ou 1 année, ils ont noté tout, tac, 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 et ils ont fait plein de bouquins avec tout ce qui avait été dit et transcrit à une des personnes qui leur parlait. Et elle en a fait un livre. Et donc voilà. Moi, alors quand elle parle, c'est tellement naturel la manière de le faire qu'on se dit, mais est-ce qu'il faut y croire ou pas? On a un peu plein d'émotions qui arrivent en nous, mais finalement, on finit par le croire. Et je trouvais intéressant d'écouter souvent ces auteurs qui ont écrit des livres que pas tout le monde peut aimer, mais que ça touche beaucoup de gens, mais souvent les écouter parler. Et je vous encourage vivement, quand vous connaissez un livre, même d'un ancien auteur, parce que durant le 20e siècle, souvent, ils ont fait des vidéos, d'aller l'écouter. Et vous tapez sur YouTube son nom et vous verrez, il y a souvent des interviews. Mmh. Et c'est super intéressant.
Donc ouais, voilà. Je te disais, c'est hyper intéressant, c'est Dialogue avec les anges.
Ouais, Dialogue avec les anges, exactement.
Connu. Et moi, c'est typiquement le genre de personne qui me gonfle, mais je dirais, j'ai écouté 5 minutes, mais je me disais, mais elle raconte tellement de la merde. Alors, c'est un jugement de valeur, je vous dis mon ressenti, hein, puis, fort heureusement, les ressentis, après, on est capable de passer dessus, puis de mettre du contexte et tout ça, mais je te parle juste là de l'instinct, quoi. L'instinct qui sort. Et c'est drôle de voir comment on réagit des fois à ces personnes, puis aussi de se poser pourquoi, la question de pourquoi, mais c'est vrai que...
Poses la question pourquoi, justement, qu'est-ce qui te fait dire
Moi, ce qui me fait réagir tout très, très fort, c'est qu'elle fait des liens et puis elle les pose comme des évidences, toi. Elle dit, et puis c'est passé de l'ombre à la lumière et ça va ensemble et c'est le cercle de la vie. Et puis t'es là, oublie, non, dans ta tête peut-être, mais faut pas essayer de me faire croire qu'il y a un monde où c'est ailleurs que dans ta tête, quoi. Mais c'est ce qui se passe chez moi quand je lis ça. Après, il faudrait lire, il faut s'intéresser. Mais je trouve bien. Et c'est aussi ça. On dit tout le temps, il faut se confronter à des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc, c'est une chance quand on a ça, parce que c'est quelqu'un qui visiblement est très respecté, tout ça. Donc, je vais aller me confronter et puis comprendre. Peut-être qu'à la fin, je penserai toujours ça, mais ça va me permettre de progresser. Et pour ça, Mike, je suis reconnaissant de me présenter avec des choses que je n'irais vraiment pas voir naturellement.
Ouais. Alors, j'ai un livre pour toi, qui était le deuxième livre, justement, parce que je me suis dit, j'ai un truc wouhou, puis un autre truc qui est moins wouhou, puis qui explique ce phénomène-là. Et c'est un auteur que j'ai découvert, je sais pas comment, qui s'appelle Gary Lachman. Alors, c'est l'ancien guitariste de Blondie. Je sais pas, pour ceux qui sont très vieux, qui se souviennent de ce groupe, Blondie. Ah ouais. Avec un E, tapé, vous verrez, pour ceux qui sont plus jeunes. Et puis, voilà. Et puis, il a été écrivain, il a commencé à être écrivain, et puis il écrit sur un peu plus ce qui est, on va dire, ésotérique, on va appeler un mot comme ça. Et il y a un livre que j'ai commencé à lire, que je trouve vraiment très intéressant, qui s'appelle « The Secret Teachers of the Western World », les teachers, enfin
les professeurs
secrets du monde moderne ou du monde de l'Ouest, on va dire ça comme ça. Mais au début, il fait le lien, avant d'expliquer les gens qui étaient dans ce fait, il fait le lien entre le cerveau droite et gauche. Et il explique scientifiquement, hein, avec des recherches, les recherches qui sont sorties, que en fait notre cerveau est à deux hémisphères. On a un hémisphère droit qui est plus réflectif, pensif, axé vers la spiritualité, un axe plutôt gauche qui est plus, voilà, vers le faire, vers le scientifique, comme on l'appelle actuellement, vers les choses à mettre en place et vers l'action. Et il dit que dans le monde humain, ils ont commencé à analyser aussi les hommes de Néandertal et tout, que finalement, on avait la partie droite beaucoup plus développée aussi que la partie gauche. Et que ce monde-là nous permettait aussi d'avoir accès plus facilement à la nature, à des choses comme ça, que maintenant, on est devenu très cerveau gauche par rapport au cerveau droit. Et il explique tout ce phénomène de dire que à partir du... il dit en 1200 avant Jésus-Christ, on a commencé justement à devenir plus cerveau gauche. À la Renaissance, on avait les deux. Donc, on avait le monde un peu plus mystique avec le monde du raisonnement, et c'est ça qui a créé toute cette créativité. Et après la Renaissance, notre cerveau gauche avec, l'âge de la raison est devenu beaucoup plus prépondérant. Et maintenant, on est tellement cerveau gauche qu'on commence à commencer à osciller entre les deux. Et voilà. Et donc, on va revenir aussi à un peu plus un cerveau droit qui nous permet un peu plus de relation avec l'infini. On va dire ça comme ça. Et franchement, son raisonnement était vraiment bon. Et j'aimais bien. Donc, je vais continuer à lire le bouquin. Est-ce que je t'ai donné envie de lire le livre?
Oui, parce que je trouve intéressant d'avoir une revue de toutes les grandes tendances un peu ésotériques, mystiques. Oui. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a des noms connus, hein, oui. Et puis qui laissent pas indifférent. Je vois, par exemple, Rudolf Steiner ou des choses comme ça qui sont, qui font encore parler d'eux de manière assez régulière maintenant.
Voilà. Et ce côté scientifique, justement, toi qui es plutôt scientifique, et à mettre en avant, en parallèle avec un côté un peu moins, peut-être un peu plus ressenti. Voilà.
Ouais. Bon, alors écoute, celui-là, je pense que j'aurai plus de facilité à me mettre dedans.
Il n'a pas dit oui. Et un dernier truc.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que toi, avant, on disait de Subtle Art, là, c'était 180 000 reviews. Là, tu nous proposes ça. C'est là, c'est vaste, quoi. On a des trucs qui sont très connus. Là, c'est 165 reviews pour un livre qui est sorti en 2015. Donc, je veux dire, c'est pour ceux qui aiment bien. Et moi, j'aime bien les livres un peu plus...
Gentil, hein, parce que je peux vous dire, les livres que je lis, il y a 3-4 revues.
Donc, deux des tiennes, parce que un au début, puis à la fin. Quoi. Donc,
ceux-là, je ne vous les donne pas. Plus tard, peut-être, si vous demandez.
Voilà, il faut venir sur le groupe Signal, et pour un sous-groupe vraiment profond. Okay.
Une petite série pour se détendre avant la fin. Et la citation, c'est Tokyo Vice. Je sais pas si vous avez regardé Tokyo Vice, la saison 1.
Ah, c'est vraiment celui qui excellent. Cartonne à fond, là.
Ouais. 8 sur IMDb, franchement pas mal. Un Américain au Japon, mais qui parle parfaitement japonais. Et donc, c'est tourné en japonais aussi avec des sous-titres, mais des fois, il parle l'anglais. Franchement, super bien fait. Et là, c'est la saison 2. J'ai regardé quelques épisodes. Franchement, c'est bien fait, quoi. La culture japonaise avec le monde des yakuza en même temps, avec plein de trucs qui se passent. Mais c'est cool. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Donc, des séries intelligentes, ça fait toujours plaisir à voir. Et donc, surtout quand ils continuent la saison 2 et qu'elle est aussi bien que la saison 1. Donc, il y a un petit truc où vous l'allez trouver. Ben, si vous avez Canal+, c'est facile. Sinon, ben, vous vous débrouillez. Mais vous trouverez, je suis sûr.
Oui, bon, là, c'est par là. Donc, écoute, magnifique. Est-ce que il nous reste encore une petite quote quand même pour terminer en beauté?
Oui, et je suis tombé sur cette quote parce que je voyais Warren Buffett apparaître un peu partout sur Twitter, parce que quand je cherchais les news, j'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce qu'il a eu la discussion sur Berkshire Hathaway il y a un jour. Voilà, c'est pour ça que je voyais des tweets partout de lui et il a fait une citation que tout le monde a adorée. Donc, je vais vous la dire. Tu es prêt à la traduire?
Ça marche.
Ask yourself, who do you want to spend your last day with? Meet them as often as you can. Why wait?
Non. Demandez-vous à qui vous voulez passer votre dernier jour. Rencontrez-les aussi souvent que possible. Pourquoi attendre? Est-ce qu'il parlait de son copain Charlie Munger?
Alors, j'ai pas vu le contexte. Je me suis dit que j'allais l'écouter parce que franchement, il lui reste peut-être pas encore beaucoup d'années et une personne, il a mérité qu'on l'écoute en tout cas une heure par année, bah, parce que c'est toujours intéressant sa vue sur le monde et puis ces petits sujets comme ça. Mais je trouve que c'était intéressant de se dire, de peut-être, voilà, se poser la question, voilà, avec qui j'aimerais passer, voilà, avec qui j'aimerais passer la fin de ma vie. Et puis, en se disant, bon, voilà, espérons que c'est son partenaire. Hein. Mais et de se dire ben voilà, j'ai envie de passer encore plus de temps avec.
Et voilà. Oui,
et ça peut changer, ça peut changer.
C'est vrai dans l'autre sens aussi, si c'est des personnes que tu vois tout le temps et puis que c'est vraiment pas le cas, c'est effectivement un petit call to action comme on dit. Mais bon, c'est joli puis c'est bien, c'est les bons fondamentaux qu'on aime, c'est tout à fait vrai. Bon, ben on était content d'avoir passé ce moment avec vous. Merci. Nous avoir fait la sympathie, la gentillesse, voilà, d'être avec nous. On est toujours heureux. N'hésitez pas à nous faire des retours. Hein. On apprécie. Comme on l'a dit, on a ce groupe Signal qui va bien, mais ou d'autres moyens, comme vous aimez. Et puis nous, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Tout le monde est là?
Tout le monde est là.
Mm-hmm. Bon, alors, ça fait plaisir. Allez, profitez bien et à dans 2 semaines. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.